Je vais maintenant passer la parole à Madame Bodine, administratrice générale de l'AVIC. Je la remercie d'avoir accepté de nous rejoindre pour nous dire un petit mot sur ces problématiques et éventuellement les perspectives de l'AVIC dans les années futures pour ces personnes blessées. Je vous remercie pour votre intervention.
Je vous rassure tout de suite, on va d'abord attendre que vous réfléchissiez pour faire des perspectives, hein, parce qu'on ne peut pas parler du besoin de partir des personnes pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais en tout cas, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour introduire ce colloque consacré à la cérébrolésion, mais surtout à la participation sociale des personnes cérébrolésées. Quand j'ai découvert le sujet, passer du projet de soin au projet de vie, je me suis dit là, je participe, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première, c'est que la problématique de la cérébrolésion touche énormément de personnes, puisque, et c'est un réel problème de santé publique, il y a environ 19 000 personnes qui sont chaque année victimes d'accidents vasculaires, et un tiers d'entre elles gardent des séquelles. Des séquelles importantes, et certaines restent lourdement handicapées. On ajoute à ça les accidentés de la route, souvent fort jeunes, qui eux aussi vont subir des conséquences du traumatisme crânien pendant toute leur vie. Et puis deuxièmement, la problématique de la cérébrolésion implique une approche multidisciplinaire et plurielle, qui relève à la fois du secteur de la santé et du secteur de l'aide à la personne. Ça implique une vision transversale de l'accompagnement des personnes. Et pour moi, cette transversalité, c'est un des objectifs majeurs de la création de l'Agence pour une vie de qualité. C'est allier le soin à la vie. Il s'agit d'offrir à la personne les services nécessaires et des services de qualité tout au long de sa vie. En effet, toute personne, tout citoyen souhaite avant tout vivre pleinement sa vie, suivre sa propre voie. Personne n'a envie d'être un objet de soins, même si les soins sont donnés avec attention et bienveillance. Nous voulons plus. Et ceci est lourd de conséquences quant à l'approche que nous devons mettre en place pour répondre à ce souhait. Plutôt que considérer la personne sous le seul angle de sa ou ses pathologies, il faut prendre en compte l'ensemble des besoins des personnes dans une vision holistique, en n'oubliant jamais que la personne est en toutes circonstances acteur de sa vie, même si elle a du mal pour l'exprimer. Elle doit être au centre des décisions qui la concernent. Mais pouvoir être acteur de sa vie, il faut avant tout pouvoir satisfaire des besoins fondamentaux, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels. Il faut tout au long de sa vie pouvoir répondre à ses besoins. Monsieur Wilmar a parlé de la définition de la santé par l'OMS et c'est vraiment une définition que j'aime beaucoup. Parce que pour l'OMS, la santé, c'est un état de complet bien-être et ne consiste pas uniquement en une absence de maladie ou d'infirmité. Je trouve qu'on devrait le rappeler souvent dans le milieu médical, être en bonne santé, c'est un état complet de bien-être et donc ça implique aussi une dimension sociale importante. C'est une définition qui date de 1946, donc loin d'être nouvelle, et pourtant elle est toujours très actuelle, et elle devrait être à la base de toutes nos réflexions et de toutes nos actions. Pour les personnes bien cérébrolésées, il s'agit bien évidemment de prendre en compte les conséquences de l'accident ou de la maladie d'un point de vue organique. On n'est pas en train de dire qu'il faut oublier la difficulté organique de la personne. Mais il s'agit également de prendre en compte les conséquences de cet accident sur la vie des personnes dans leur environnement social, avec les aidants proches, les amis, avant qu'ils disparaissent, les voisins, les partenaires professionnels, pour réfléchir ensemble à l'activité des biens et services, à la mobilité, au logement, à l'accessibilité à la culture, aux loisirs et au sport. Enfin, nous devons aussi prendre en compte l'environnement technique et technologique, puisque d'énormes progrès sont faits maintenant et que les aides techniques, technologiques, l'intelligence artificielle, les objets connectés sont aussi des moyens d'aider la personne dans sa vie de tous les jours. Il convient donc d'envisager l'ensemble de ces aspects et leur interaction pour mettre en place des solutions qui privilégient une participation sociale maximale des personnes cérébrolésées. Je sais que ce que je dis a l'air simple et que c'est très difficile. Mon souvenir de l'arrivée à la WIP et de Monsieur Sprumont qui me disait constamment « Oui, mais il n'y a rien pour les personnes cérébrolésées » me rappelle combien il est important de toujours le dire, le redire et de se battre pour le faire. Ceci implique une approche pluriel des regards. L'implication des professionnels de toutes les disciplines, et donc y compris des professionnels de la VIC, et la mise en place d'approches intégrées, interdisciplinaires et surtout collaboratives. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir arriver à améliorer la prise en charge et l'accompagnement des personnes cérébro-lésées, administration, services de santé, services sociaux, services spécifiques. Car chacun, avec ses spécificités, peut apporter une pierre à l'édifice et soutenir la personne dans la construction de son projet de vie personnelle. Cette approche transversale est fondamentale et constitue aussi un des enjeux majeurs de la création de la VIC. Car c'est dans cet esprit que la VIC avait déjà mené en 2009, alors que ça s'appelait encore AWIP, via son service statistique et méthode, une étude qualitative sur les besoins des personnes cérébro-lésées et leurs familles. Si l'on veut partir de la personne, il faut bien d'abord lui demander à elle et à sa famille ce dont elle a besoin. La VIC a ensuite soutenu le développement des deux recherches actions. Monsieur Wilmar a parlé d'une d'entre elles. Quand les vécus de la lésion cérébrale interrogent les pratiques et puis les ruptures de parcours chez les personnes cérébro-lésées. Enfin, en 2015, un appel à projet a été lancé pour concrétiser les recommandations de ces études. Il ne suffit pas d'étudier, il faut aussi agir. Et cela s'est traduit par la création d'un centre de référence en lésions cérébrales en Wallonie, celui par lequel nous sommes invités aujourd'hui. Le gouvernement a avalisé la création de ce centre à partir de 2016. Et ce centre s'adresse à trois types de publics. Les personnes et leurs familles, pour un soutien personnalisé qui existait déjà auparavant, mais qu'il fallait encore développer. Les professionnels, surtout, pour que sur l'ensemble du territoire de la Wallonie, les professionnels puissent être supervisés, formés, informés sur la cérébro-lésion. Et puis, finalement, je dirais last but not least, le grand public. Je pense qu'il faut mettre à la disposition du grand public une base documentaire et surtout organiser des sensibilisations pour que la cérébro-lésion et ses difficultés soient connues du grand public. C'est pour moi un point essentiel. On part des besoins de la personne, mais si le grand public ne comprend pas les difficultés des personnes qui sont devant lui, on continuera à avoir des problèmes à permettre l'inclusion de la personne cérébro-lésée. En tout cas, je ne peux que féliciter le centre pour les résultats déjà engrangés en 2016 et 2017. Plus de 60 personnes ou familles ont été soutenues en 2017, soit le double de 2016. J'espère qu'on va continuer comme ça. Je pense que M. Sprimon va te dire, oui, mais alors le budget, il faudrait aussi... 18 formations de professionnels ont été menées, 22 rencontres avec les réseaux de partenaires ont été organisées et le centre a participé à 15 groupes de travail de professionnels. Ce n'est pas rien. Enfin, la base documentaire se structure aussi et le centre a assuré une présence lors de salons locaux et régionaux pour sensibiliser les médecins généralistes et les professionnels. Et je pense qu'on ne doit pas sous-estimer le rôle du médecin généraliste qui est formé à la cérébro-lésion dans sa partie médicale, mais pas nécessairement dans la difficulté que les personnes vont rencontrer au jour le jour. Mais revenons aux trois thématiques sélectionnées pour le colloque. Le logement, le lieu de vie, l'emploi et les loisirs. En ces matières, je ne doute pas que vous travaillerez à une diversification maximale des solutions pour que chacun, en fonction de ses besoins, puisse trouver chaussure à son pied. Mais comme me le disait M. Wilmar avant d'entrer dans la salle, il faudra peut-être aussi consolider et reconsolider et reconsolider ce que chaque jour nous essayons de créer. Se loger, avoir un chez-soi, constitue un droit inscrit dans notre Constitution et un besoin fondamental pour chacun d'entre nous. Ce chez-soi peut revêtir diverses formes et nous les avons quelque peu déjà diversifié déjà, logement accompagné, logement appartement supervisé, logement communautaire, partagé, kangourou, intergénérationnel, appart-hôtel, résidence-service, hébergement collectif. Il y a là une large gamme de solutions, mais notre effort devra probablement être de rendre ces formes perméables pour pouvoir passer facilement de l'une à l'autre en fonction des besoins et des souhaits de chacun. Il faut absolument diversifier cette offre pour permettre un réel choix des personnes, en gardant constamment en tête que le comité de droit des personnes handicapées de l'ONU impose la création de milieux de vie de petite taille, permettant un accompagnement des parcours de vie inscrits dans la cité, souple et évolutif. Petite taille, inclus dans la société, évolutif. en se souvenant toujours qu'il n'y a qu'une seule bonne solution, celle qui est choisie par la personne. À nous d'être créatifs pour accompagner les personnes et les soutenir, pour qu'elles puissent vivre dans le lieu de leur choix, avec là où les personnes de leur choix, mais en sécurité, et avec les services nécessaires pour y vivre une vie de qualité. Vaste programme s'il en est. Tiens, vie de qualité, agence pour une vie de qualité, j'en profite pour vous dire que la VIC est à vos côtés et soutient toute une série de projets novateurs inclusifs. À côté de ceux que j'ai cités tout à l'heure, j'ajouterai les projets récents de développement d'infrastructures pour des personnes qui accompagnent deux types de publics, les personnes avec polyhandicap d'une part et les personnes cérébro-lésées d'autre part. Le gouvernement a consacré 5 millions à cette matière. C'est à la fois beaucoup et probablement encore trop peu, mais en tout cas, c'est déjà une réponse à des besoins urgents et importants. La deuxième thématique de votre colloque est l'emploi ou la participation professionnelle. L'emploi ou la participation professionnelle constitue un autre besoin fondamental de chaque individu, qu'il soit sous forme d'emploi rémunéré ou toute autre forme comme le volontariat, la participation à des activités citoyennes, des ateliers thérapeutiques. Il importe que la personne ait une activité valorisante pour elle-même, mais également une activité valorisée par la société. Parce que le regard des autres constitue un miroir pour chacun d'entre nous. Un miroir qui nous donne confiance en nous, mais aussi un miroir qui peut nous briser. En cette matière, la VIC n'est pas inactive. Nous avons développé des projets de soutien à l'emploi, déjà plus traditionnels, connus depuis plus longtemps, comme le soutien financier aux employeurs avec les primes d'intégration, de compensation, les CAP, etc., ou l'adaptation de postes de travail, mais aussi le soutien dans l'emploi sous forme de soutien direct aux personnes. Et j'aime beaucoup parler du job coaching qui a attiré l'attention sur la nécessité, non pas uniquement que la personne cérébro-lésée ou handicapée s'intègre dans son milieu de travail, mais aussi que le milieu de travail soit informé et puisse aider la personne à s'intégrer dans ce travail pour qu'il soit pérenne. Nous avons aussi évidemment le travail en entreprise de travail adapté. La VIC a également développé des projets pour assurer une meilleure transition école-vie active. Parce que si nous voulons que le jeune ne reste pas après l'école à la maison pour perdre ses acquis et perdre la confiance en lui, il faut absolument prévoir une transition. Prévoir des activités thérapeutiques, mais je dirais surtout des activités citoyennes, parce que l'un n'empêche pas l'autre, pour que les personnes qui ne peuvent travailler puissent trouver un épanouissement. Ces initiatives sont probablement à renforcer et à développer pour couvrir les besoins des personnes sur l'ensemble du territoire de la Wallonie. Parce que si nous voulons des activités qui permettent à la personne de vivre dans son milieu de vie, il faut aussi qu'elles soient près de leur milieu de vie. Enfin, la troisième thématique, les loisirs. On qualifie souvent notre société de société de loisirs. Et en cette matière, l'enjeu se situe pour moi surtout dans l'accessibilité de ces activités au plus grand nombre. Une accessibilité qui doit être à la fois physique, culturelle et sociale. Et ce n'est pas aussi évident que ça puisse paraître. En cette matière, nous avons voulu collaborer, par exemple, avec l'Office du tourisme pour soutenir le développement d'activités et d'événements accessibles à tous. Mais ici aussi, les chantiers sont énormes. Et je ne peux que me réjouir de la mise en place de ce colloque qui met en lumière ce que on qualifie souvent de handicap invisible et dont les contours et manifestations sont souvent mal connus et dès lors mal perçus par la population. Nul doute que la tenue de ce colloque permettra d'assurer une meilleure visibilité des citoyens cérébro-lésés auprès du grand public et des professionnels. Et pour terminer, je saisirai aussi l'occasion de vous remercier tous, proches, professionnels, personnes en situation de handicap, pour votre mobilisation. Vous pouvez compter sur le soutien de la VIC et l'ensemble de son personnel, dont certains sont ici d'ailleurs, tant dans la branche santé que dans la branche handicap. Même si je sais que les attentes sont immenses et qu'il est parfois difficile pour nous, administration, de les rencontrer. C'est pourquoi je vous demanderai de la compréhension, mais en même temps de la ténacité. N'hésitez pas à nous bousculer pour nous permettre aussi d'évoluer et de trouver de nouvelles pistes pour répondre aux besoins des personnes cérébro-lésées. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis, n'hésitez pas à nous bousculer. J'aime beaucoup être bousculé. Mais j'aime aussi beaucoup qu'on bouscule mes collaborateurs, ils le savent. Je sais que M. Soukoum n'hésitera pas. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon colloque et un excellent travail que je devine déjà riche et fructueux. Merci beaucoup.